RJB Info.
Le journal, Séverine Boé, bonsoir.
Bonsoir, nouveau rebondissement à Moutier dans le dossier du registre électoral. Alors que les autorités prévotoises ont livré des conclusions intermédiaires, aujourd'hui dans la matinée, le canton de Berne leur a transmis une nouvelle série de questions. Nous ferons le point dans quelques minutes. Augmentation des cas d'encéphalite à tiques cette année. Cette maladie est transmise par ces petites bêtes suceuses de sang, des morsures qu'il ne faut pas prendre à la légère. Le Conseil des États était aujourd'hui en excursion dans la région. Leur guide n'était autre que Hans Stöckli, président de la Chambre haute. Vous pourrez découvrir le programme que le Biennois leur a concocté. Du côté du ciel, des averses et des orages isolés sont possibles sur le Jura bernois, tandis que le Seeland devrait rester au sec. Demain, la journée sera à nouveau ensoleillée et chaude. La chancellerie d'État du canton de Berne remet la compresse sur le registre électoral de Moutier. Elle a transmis à la commune une nouvelle série de questions le jour où le conseil municipal a livré ses conclusions intermédiaires, faisant état de 6 cas qui restent à régler. Berne indique avoir observé l'arrivée dans la cité prévotoise d'un nombre croissant de personnes qui semblent être sans emploi ou à l'aide sociale. Pour le canton, ces personnes peuvent être soumises à des pressions ou des tentatives d'influence qui pourraient nuire à la confiance dans le résultat du futur vote d'appartenance cantonale. Président de la délégation pour les affaires jurassiennes du conseil municipal de Moutier, Valentin Zuber réagit vertement.
Je suis choqué du contenu du communiqué de presse, déjà de la façon de faire, d'adresser ces questions comme ça et de communiquer ces questions. Il y a un sous-entendu qui est absolument nauséabond dans ce texte, c'est celui de dire que les personnes qui sont sans emploi ou qui sont à l'aide sociale viendraient à Moutier et se feraient influencer comme si elles étaient plus bêtes que les autres. Et ça, je crois que c'est inacceptable. On ne peut pas non plus tout accepter de la part du conseil exécutif dans sa communication. Il faudra aussi à un moment donné dire stop. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas répondre pragmatiquement aux questions, mais je crois que le jeu systématique de la communication politique que fait le canton de Berne est vraiment extrêmement néfaste à la tenue d'un débat démocratique sain. Cette façon de dire les choses, cette façon, je dirais, de mépriser une partie de la population, elle n'est pas digne d'un État et puis elle est franchement contraire au dialogue interjurassien instauré par la tripartite.
Valentin Zuber a évoqué une discrimination des personnes au chômage ou à l'aide sociale, ce que réfute le vice-chancelier du canton de Berne, David Gaffineau.
Non, je crois que personne n'a parlé de stupidité. Il y a des soupçons qui datent déjà du vote de 2017, d'une ordonnance pénale qui avait abouti à des non-lieux faute de preuves notamment, mais qui avait relevé différentes situations de personnes qui s'étaient fait proposer de l'argent ou à qui on avait proposé de voter dans un sens ou de l'autre. Donc c'est des choses qui ont eu lieu et puis on aimerait autant que possible éviter qu'il y ait ce genre de soupçons de nouveau lors du prochain vote puisque c'est serré, qu'on prend beaucoup de mesures pour essayer de faire un vote le plus propre possible. Donc maintenant, du moment qu'on observe ces choses-là sur ces arrivées croissantes, dont des gens qui, selon nous, demanderaient une vérification qu'elles ont leur centre de vie à Moutier, on transmet ces observations.
Un dossier réalisé par Raphaël Chalvera. Le funiculaire qui relie Saint-Imier au Mont-Soleil va bien. Malgré la crise du Covid-19 et le semi-confinement, l'administration de l'entreprise est plutôt positive. Les explications d'Yves Ourriet, directeur du funiculaire.
Comme toutes les entreprises de transport au niveau fédéral, cantonal, on a subi le Covid-19 de plein fouet. Et puis, nous osions seulement transporter des gens qui utilisaient le funiculaire pour aller au travail ou à l'école, mais on ne pouvait plus faire de transport touristique. Ce qui fait que ça nous a énormément pénalisés, et ceci jusqu'à mi-juin, fin juin.
Et puis après, fin juin, pendant le mois de juillet, août, il a fait très beau. Est-ce que du coup, les gens sont revenus, voire même encore plus venus que d'habitude?
Alors effectivement, on a eu une forte fréquentation au mois de juillet et août, qui pour le moment n'a pas encore rattrapé le retard qu'on a pris dans les premiers mois de l'année. Mais on a fait le double de personnes en juillet 2020 qu'en juillet 2019. Et grosso modo, 75% de plus en août 2020 qu'en août 2019.
Des propos recueillis par Lydiane Guéna. Difficile de faire des prévisions pour la fin de l'année, mais Yves Ourriet reste confiant. Même si l'exercice se termine avec des pertes, les bénéfices des autres années pourront les effacer. À noter que les actionnaires du funiculaire Saint-Imier-Mont-Soleil se retrouvent ce soir lors d'une assemblée générale ordinaire. À Bienne, le conseil municipal lorgne sur un terrain au champ de Bougeant. Les autorités ont indiqué aujourd'hui dans un communiqué être intéressées par un terrain de plus de 8200 m² qui appartient à la société Asilessa. Pour l'acquérir, la ville devra débourser plus de 4,1 millions de francs. Elle devra d'abord obtenir l'aval du conseil de ville qui se prononcera en octobre. Sortez couvert, les cas d'encéphalite attique n'ont jamais été aussi nombreux depuis plus de 30 ans. Favorisée par les chaleurs exceptionnelles et par une hausse des sorties en plein air, cette maladie virale transmise par les tiques ne doit pas être prise à la légère. Selon l'infectiologue du centre hospitalier Bienne, Urs Führer, il vaut mieux prévenir que guérir.
Les précautions elles sont vraiment très importantes parce qu'une fois que vous êtes malade, vous ne pouvez vraiment plus rien faire. Il n'y a pas de traitement, il n'y a rien. Alors c'est extrêmement important de prendre des précautions. Pour éviter les tiques, quand vous vous promenez dans des zones à risque, dans les forêts, dans le jardin, vous portez si possible des vêtements longs. Vous pouvez aussi utiliser des sprays contre les tiques. Et puis bien sûr, on recommande à tout le monde qui se promène dans des régions à risque de se faire vacciner. Parce que c'est un vaccin assez simple et puis il est efficace.
La plupart du temps, le virus disparaît de lui-même, mais dans 10% des cas, il arrive que la maladie prenne une forme plus sévère.
Il y a peu des gens qui, après encore une semaine, ils ont après ce qu'on appelle une encéphalite méningite. Donc c'est le cerveau qui commence à s'enflammer. Et puis là, les symptômes, bien sûr, peuvent être beaucoup plus graves. À part des maux de tête, il y a des paralysies qui sont possibles, toutes sortes d'autres symptômes neurologiques jusqu'à la mort.
L'encéphalite attique reste une des maladies les plus rares transmises par ces petites bêtes. La plus connue et la plus fréquente est la maladie de Lyme, une forme de borréliose. Elle est causée par une bactérie et peut être traitée avec des antibiotiques adaptés. Le Conseil des États était sorti dans la région. Aujourd'hui a eu lieu la traditionnelle excursion de la Chambre haute. Comme de coutume, le président a emmené ses collègues sur ses terres. Cette année, c'était au tour de Hans Stöckli de leur faire découvrir les alentours de la cité ceylandaise. Les conseillers devaient se déplacer à bord du Mobicat, le catamaran qui fonctionne à énergie solaire. Mais le programme a connu quelques changements. Hans Stöckli n'a pas pu cacher sa déception.
Bien, j'aurais bien voulu venir avec le bateau qui est encore un peu mon bateau parce que j'étais président lorsque nous avons créé ce fameux catamaran. Mais nous devons respecter les distances et nous étions un groupe un peu plus grand que prévu. Et donc nous avons dû choisir un bateau un peu plus grand. Mais les gens ont aussi apprécié cette possibilité.
Est-ce que c'était important pour vous d'emmener vos collègues voir votre région ?
J'ai bien sûr profité de cette possibilité de leur montrer la beauté du pays des Trois Lacs et du Jura. Et nous allons maintenant voir une entreprise horlogère et puis après nous allons visiter Marcolin. Donc on aura le lac, la ville et le Jura.
Hans Stöckli au micro de Diana D'Acosta. Plus tôt dans la journée, le Conseil des États a décidé d'ajouter des fonds supplémentaires au projet d'encouragement approuvé par le National pour les 4 prochaines années. En ce qui concerne les échanges linguistiques et la mobilité, ce sont 10 millions de plus qui ont été approuvés. Les membres de la Chambre haute souhaitent qu'à terme, chaque jeune puisse avoir l'opportunité de faire un échange en Suisse. Une perspective qui semble pour l'heure très lointaine, comme l'explique la socialiste jurassienne Elisabeth Baumschneider.
On est à un petit 3%, donc ça paraît dérisoire. Et puis on le voit bien quand on discute avec nos voisins, nos amis, ils sont une petite minorité qui a participé à un séjour linguistique. Et encore, souvent, c'est une petite semaine organisée dans la grande proximité. Alors que là, il s'agit de valoriser aussi les séjours linguistiques avec le Tessin pour que les jeunes aient aussi un intérêt et puis si ce n'est une pratique, mais en tous les cas, une connaissance de la langue italienne. Parce que je veux dire, tous ces brassages d'élèves et d'étudiants, ça ne va pas en faire des bilingues et des génies de l'allemand ou du français réciproquement.
Le ministre en charge de la Culture, Alain Berset, s'est montré sceptique quant à la somme prévue par le Conseil des États. Il a souligné que l'argent ne faisait pas tout dans ce domaine et qu'il fallait surtout des projets, un argument qui n'a pas convaincu une autre sénatrice socialiste, la tessinoise Marina Carobbio.
les projets, ils sont présents dans les cantons. Moi, je connais les projets que le canton Tessin amène pour faire des échanges ici, pour promouvoir la langue italienne. Donc, il y a plusieurs projets qui sont présents. Moi, je pense que si on a 20 millions, donc 10 millions de plus de ceux qui a proposé le Conseil fédéral, on peut vraiment faire quelque chose. À la fin, c'est vrai, c'est pas seulement les moyens financiers qui sont suffisants, il faut aussi la volonté politique, la volonté des institutions, des écoles. Mais je pense que c'est un pas important que nous avons décidé aujourd'hui.
Des propos recueillis par Hélène Yost, notre correspondante à Berne. Le Conseil des États a en revanche renoncé à l'enveloppe de 1,2 million de francs supplémentaires destinée à Mémoriave, le centre de compétences pour le patrimoine audiovisuel suisse. Le dossier repart au national. La Suisse est désormais un territoire à risque élevé d'infection au coronavirus. Selon la RTS, notre pays a franchi aujourd'hui la barre symbolique de 60 cas pour 100 000 habitants sur 14 jours. C'est la limite fixée par la Confédération pour être considéré comme un pays à risque. Selon les derniers chiffres de l'OFSP, 5 247 cas de Covid-19 ont été enregistrés entre le 2 septembre et hier. À noter qu'à Bienne, 53 personnes ont dû être placées en quarantaine. 5 élèves de 11e du Collège des Platanes ont été testés positifs au coronavirus. Cette décision a été prise par le médecin cantonal selon un communiqué. La quarantaine devrait durer jusqu'au 24 ou au 25 septembre selon les classes. Et dans l'actualité internationale, l'extrémiste de droite norvégien Anders Behring Breivik, qui avait tué 77 personnes en 2011, demande sa mise en liberté conditionnelle, a annoncé son avocat aujourd'hui. Il avait écopé en 2012 de la peine maximale, à savoir 20 ans de prison, susceptible d'être prolongée indéfiniment. Détenu à l'écart des autres détenus, Anders Behring Breivik se plaint aussi de son isolement carcéral et va de nouveau attaquer l'État en justice pour protester contre ses conditions de détention.
Et à l'écoute d'RJB, il est 18h13.
Sport. Le maillot jaune est toujours plus solidement ancré sur les épaules de Primoz Roglic. Le Slovène n'a pas vacillé cet après-midi lors de l'étape reine du Tour de France. Il a même repris du temps, une vingtaine de secondes, à son dauphin et compatriote Tadej Pogacar. C'est le Colombien Miguel Ángel López qui l'a emporté en solitaire au col de la Lose après 170 km de course. Le résumé de cette 17e étape est signé par notre confrère de RMC Sport, Johan Bredeau.
C'était l'étape reine de ce Tour de France et elle a offert un spectacle magnifique. Elle avait pourtant commencé tristement avec cet abandon d'Egan Bernal avant le départ. Le vainqueur du Tour 2019 était affaibli, il n'avait tout simplement pas les forces pour affronter les deux hors catégorie du jour, la Madeleine et le col de la Lose. Les favoris se sont expliqués, évidemment la Bahreïn de Mikel Landa a même tenté un coup en roulant fort dans ces deux cols pour essayer de fatiguer un maximum les coéquipiers du maillot jaune. Primoz Roglic, ça a condamné les derniers échappés du jour. Julien Alaphilippe, Richard Carapaz et Gorka Izagirre. Et surtout, il n'était plus que deux autour du maillot jaune. Du bon travail effectué par la Bahreïn, sauf que Landa a lâché dans les quatre derniers kilomètres les plus difficiles du col. Tout comme Rigoberto Urán, Miguel Ángel López s'est envolé sur ses pentes à plus de 20% par moment pour s'offrir une magnifique victoire devant Roglic qui reste en jaune et Pogacar. Le Colombien prend la troisième place au général derrière les deux Slovènes. Mais quelle finale! Primoz Roglic n'a jamais été aussi proche de la victoire finale.
Le Tour de France va rester dans la montagne demain. Les cyclistes effectueront 175 km entre Méribel et La Roche-sur-Foron avec 5 ascensions au programme. Dans la région, c'est l'une des rares occasions de sortir son VTT et de se mesurer au chronomètre. Le Tour des Sommets va vivre dimanche sa 9e édition au Noirmont. Les organisateurs ont tenu à maintenir l'épreuve malgré la pandémie de Covid-19. Ils attendent 100 à 150 participants. La formule de course a été adaptée à la situation sanitaire. Le président de l'épreuve, Pascal Mercier.
C'est un peu spécial cette année. Il n'y a pas forcément d'enjeu parce qu'il n'y a pas de trophée jurassien ou bien comme ça, mais c'était surtout dans le but d'offrir quand même à tous ces sportifs un parcours pour se mesurer. Et puis, on a aussi opté pour la fosse du contre-la-montre parce que comme ça, on avait moins de problèmes. On n'était pas obligé de mettre les masques et tout ça au départ. On peut mieux canaliser les gens pour respecter les distances. Malgré les mesures, c'est quand même toujours possible d'organiser une course.
Le tracé passe de 23 km l'an dernier à 9 300 km cette année. Pourquoi une telle réduction des kilomètres sur votre épreuve?
C'était pour justement rendre plus compatible en raison des mesures sanitaires. Vu qu'il n'y a pas d'enjeu, on s'est dit peut-être aussi innover puis essayer quelque chose de différent, après avoir si ça plaît ou pas.
Pascal Mercier au téléphone de Mathieu Schaffner. Les départs seront donnés de 9h30 à 11h30 dimanche au Noirmont. Détails sur vcfm.ch. Et en football, Young Boys doit dominer ce soir le champion du Danemark pour espérer un automne européen. Les footballeurs bernois font le déplacement de Midtjylland à 20h30. Il s'agit du troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions. En cas de succès, IB devra encore franchir un obstacle avant d'atteindre la phase de groupe. Le prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 18h30. Excellente soirée.
Excellente soirée à vous également, Séverine Boé. On prend des nouvelles du ciel, on écoute The Police à 18h20. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on prend l'air. Si de petites ondées sont encore possibles dans le Jura, le ciel devrait se dégager durant la soirée pour nous offrir une nuit étoilée et douce dans la région. Demain, nous nous réveillerons encore une fois sous un soleil radieux et il le restera pour l'ensemble de la journée. Des cumulus sont tout de même attendus sur les reliefs en après-midi, mais ils ne devraient pas donner d'activité orageuse. Concernant les températures, on reste dans une ambiance estivale d'après Météo News. Il fera entre 10 et 15 degrés à l'aube. Pour la seconde partie de journée, le mercure devrait atteindre au mieux 24 degrés à Saint-Imier, 25 à Tramelan, 26 à Moutier, maximum 27 degrés dans le Seyland. Vendredi et samedi tendront également vers le beau et le chaud. On attend un retour de la pluie pour dimanche.